Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, média et culture au sens large. Aujourd'hui, par exemple, de la littérature avec Nicolas Carreau et de la gastronomie avec Olivier Pouls qui va s'intéresser à la culture bistrot, ce qu'elle est devenue et ce qui a disparu. Ce sera en deuxième heure. Il y aura également Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pré-fame de Lisa-Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray et ses voix. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias avec Héloïse Goy. Et aujourd'hui, trois success stories. D'abord, notre info média va se mettre au manga. Et c'est normal, le manga est une industrie culturelle qui génère 212 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va vous parler? C'est plus de la moitié du marché français de la BD, le genre qui se vend le plus en France. Et signe des temps, le mensuel Lire magazine littéraire consacre un hors-série au manga. Mais est-ce que le manga est un genre littéraire? C'est la question qu'on va poser au rédacteur en chef du magazine, Ilan Ferry, qui sera avec nous. Ensuite, David Creusot et Lucie Baudet, ce sont les fondateurs de Combini, média référence chez les jeunes et pas seulement. En tout, 2,1 milliards de vidéos vues en 2021. Quand ils avaient créé Combini en 2008, l'iPhone venait tout juste d'être inventé et ils sont toujours là, aux commandes et avec nous. Enfin, le slammer Grand Corps Malade, après son dernier album Mesdames, qui était la meilleure vente 2020-2021, il repart en tournée. Et quelle tournée! Des salles énormes et un début de polémique. Il se présente à la présidentielle. En tout cas, il voudrait. Il va nous dire pourquoi. Évidemment, il y a de l'humour là-dessous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Le lancement d'un JT personnalisé sur TF1. On va vous expliquer ce que c'est précisément. Une star de la chanson française bientôt dans un téléfilm pour la première fois. Et puis un documentaire très riche qui revient sur ce qui s'est passé en France ces 5 dernières années.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Alors hier soir, c'était 1, 2, 3, hein, TF1 leader, avec toujours un bon score pour la série Mon Ange, avec Muriel Robin. 4 600 000 téléspectateurs et 20,8% de part d'audience. C'est un peu moins bon que la semaine dernière, mais ça reste très correct. Sur la deuxième marche, France 2, avec le Cache Investigation, Liberté, Santé, Inégalité. Un bon score aussi, hein, vous en parliez cette semaine d'ailleurs. 2 319 000 téléspectateurs, c'est 11,4% de part d'audience.
Très bon score pour un Cache Investigation.
Tout à fait. Et puis en troisième place, France 3 avec le film Photo de famille avec Jean-Pierre Bacri, 2 287 000 téléspectateurs avec 10,9% de part d'audience. Et puis M6, malheureusement encore en baisse avec la série Why Women Kill qui passe en dessous des 2 millions de téléspectateurs avec seulement 8,2% de part d'audience.
Culture Média.
On ouvre ce journal des médias avec le lancement d'un JT personnalisé sur TF1. C'est quoi exactement ?
Alors en fait, il s'agit d'un JT à la carte. En se connectant sur le nouveau site ou la nouvelle application de TF1 qui s'appelle TF1 Info, vous pourrez désormais renseigner vos préférences sur l'actualité. Il vous suffira d'indiquer si vous souhaitez recevoir surtout des infos sur la politique, le sport, le patrimoine, la gastronomie ou même la météo. Et à chacune de vos nouvelles connexions, une série de sujets et de reportages issus du journal télévisé vous seront proposés en fonction de ces thèmes que vous avez choisis. À noter aussi que vous pourrez préciser vos préférences géographiques pour recevoir par exemple toutes les infos de votre région. Olivier Ravanello, le directeur de l'information digitale du groupe TF1, explique les raisons de cette démarche.
Ce que l'on constate tous, c'est, les études le disent depuis de nombreuses années, le sentiment d'une partie du public, et c'est notre public aussi en partie, qui sur le digital est submergé par l'information. Il y en a trop, parfois elle ne leur ressemble pas, ils ont l'impression de la subir. On a à TF1 une mission qui est d'informer le plus grand public et on ne peut pas se satisfaire de voir une partie des Français, petit à petit, se détourner de l'information lorsque, depuis des années comme nous, on essaye de fabriquer une information référente au quotidien pour le plus grand nombre.
Ce JT personnalisé sera lancé à partir du 24 janvier prochain. Il s'inscrit dans la nouvelle offre digitale de l'information du groupe TF1 qui a été dévoilée hier par Thierry Thuillet dans une conférence de presse.
En vérité, sur les 3, 4, 5 prochaines années, on sait que si nous voulons demeurer et peut-être même conforter notre place de champion français de l'information, il faut qu'on puisse s'adresser à tous les publics, sur tous les supports, en gros s'adapter aux usages. On voit qu'en France, 6 ou 7 Français sur 10 qui s'informent d'abord par le mobile. Donc Cette idée du mobile first est très importante.
Cette refonte digitale de TF1 proposera notamment des contenus adressés aux jeunes, avec par exemple des lives organisés sur les réseaux sociaux avec des candidats à l'élection présidentielle.
Et puis on vient de l'apprendre, la rédaction du JDD, le journal du dimanche, exprime sa préoccupation après le remplacement de son directeur général.
Et oui, je vous en parlais cette semaine, hein, Jérôme Béglé va remplacer Jérôme Bellet, 3 mois après sa nomination au poste de directeur général du journal du dimanche. Et dans un communiqué, la rédaction du JDD exprime sa vive préoccupation suite à cette annonce. La Société des journalistes de l'hebdomadaire regrette de n'avoir reçu aucune explication sur les raisons de cette décision. Elle ajoute que la nomination de Jérôme Béglé, chroniqueur régulier de CNews, leur fait craindre, je cite, « un rapprochement avec la chaîne du groupe Bolloré, média d'opinion qui se revendique comme tel ». Fin de citation.
On continue dans l'actualité des médias avec Canal+, qui lance une nouvelle chaîne.
Et oui, ça s'appellera Canal+ Outre-mer, une chaîne 100% digitale qui ne diffusera que des productions d'outre-mer. Alors dans un communiqué, le groupe Canal+ assure vouloir soutenir et offrir une plus large diffusion à la production audiovisuelle des Antilles-Guyane, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie. Au programme, plus de 80 contenus pour le lancement, avec des documentaires comme celui sur l'auteur-compositeur guadeloupéen Admiralté. Il y aura aussi des courts-métrages, des séries, des concerts. Ces programmes seront accessibles sur le site MyCanal et à disposition de tous les abonnés. Et cette nouvelle chaîne sera disponible en ligne dès le 25 janvier prochain.
Et puis dans l'actualité des médias également, une star de la chanson française bientôt dans un téléfilm.
Eh oui, Kenji Girac débarque bientôt sur vos écrans dans une fiction. Vous connaissez le chanteur qui avait gagné The Voice en 2014. Hein, impossible d'être passé à côté de ces titres comme Andalouse qu'on entend ou Les yeux de la mama. Mais cette fois, c'est dans la peau d'un jeune illettré qu'on pourra voir l'artiste de 25 ans. Il s'apprête à commencer le tournage d'un téléfilm intitulé Champion qui sera diffusé sur TF1. Kenji Girac a accordé une interview à nos confrères du Parisien pour parler de ce tout premier rôle. Il incarnera donc Zach, un jeune menuisier qui peine à lire et à écrire et qui garde cet illettrisme secret. Kenji Girac explique avoir accepté ce rôle parce qu'il se sentait concerné par ce sujet. Il confie qu'au début de sa carrière, il ne lisait lui-même pas assez vite pour décrypter les prompteurs des émissions de télé.
Incroyable.
Il a arrêté l'école assez tôt. Avec ce téléfilm, le chanteur ne verrait même pas d'inconvénient à devenir un porte-parole de cette cause de l'illettrisme qui concerne encore plus de 7% des Français. Et en plus de ce tournage, Kenji Girac devrait reprendre en mars prochain sa tournée intitulée « Mi vida tour ».
Et on termine ce journal des médias avec un documentaire de France 5 qui revient sur ce qui s'est passé en France durant le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Ah oui, il s'en est passé des choses ces 5 dernières années dans le pays. Depuis presque 2 ans, vous êtes sûrement obnubilé par la pandémie qui prend beaucoup de place dans l'actualité. Et vous avez peut-être donc oublié quelques événements forts qui se sont passés depuis le début de ce quinquennat. Et ce documentaire, qui est tout simplement intitulé 5 ans, est justement là pour vous rafraîchir les mémoires.
Nous avons vécu la première insurrection populaire du siècle, mais aussi une nouvelle révolution féministe via les réseaux sociaux. Nous avons assisté à des feuilletons improbables, des scandales sexuels d'un nouveau genre, avant d'endurer la première pandémie mondiale depuis 1918. Tout cela à l'ère du numérique triomphant et d'une planète en feu.
Voilà pour le programme. Le documentaire revient également sur les débuts à l'Élysée du plus jeune président élu de l'histoire de France et sur les premiers scandales aussi auxquels Emmanuel Macron doit faire face.
Et crac. Tempête Benalla.
Bah, c'est la douche froide.
À la une de l'actualité ce soir, le silence du président Macron face au scandale Benalla.
Aujourd'hui, un collaborateur d'Emmanuel Macron est accusé de violence sur un manifestant.
Les Français découvrent stupéfaits le chargé de mission de l'Élysée qui moleste des étudiants.
Si ces 5 dernières années ont aussi été frappées par de nombreuses grèves, des manifestations, une crise sanitaire, le documentaire montre aussi que quelques événements ont su unir les Français. La victoire des Bleus à la Coupe du Monde de foot, bien sûr, mais aussi un autre événement qui a beaucoup ému les citoyens. Est-ce que vous avez une idée, Philippe ?
Non, ça peut pas être un Grand Prix, je sais pas.
Ça se passe en décembre 2017.
Pendant 3 jours, la France semble comme arrêtée. Le temps d'un adieu à la plus grande légende populaire de l'époque. 1 million de fans venus de la France entière dans la rue, 7 millions devant leur télé. Un deuil national, un événement politique.
Johnny était beaucoup plus qu'un chanteur. C'était la vie.
Le documentaire est découpé en 3 épisodes d'environ 50 minutes. Et pour raconter tout ça, les journalistes Jérôme Bermain et Raphaël Bayou utilisent beaucoup d'images d'archives, bien sûr. Et ils ont interviewé des acteurs politiques, des anciens membres du gouvernement, dont Édouard Philippe, des opposants, des spécialistes de l'écologie, des féministes ou encore des citoyens français anonymes. C'est passionnant, ça s'appelle 5 ans et ce sera diffusé sur France 5 dimanche à 20h55.
Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. L'inscription, elle est gratuite. C'est sur europe1.fr. À lundi, Héloïse, pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Dans un instant, notre info média du jour, One Piece, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, ça vous parle. La déferlante des mangas en France n'est pas prête de s'arrêter. Il s'en vend davantage de mangas que de BD, si bien que le mensuel Lire Magazine Littéraire lui consacre un hors-série. On en parle dans quelques instants, nous serons avec son rédac-chef.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
130 000 exemplaires vendus en 3 jours, c'est un phénomène d'édition, mais ce n'est pas le dernier Houellebecq, mais le manga One Piece qui est sorti en décembre dernier. One Piece sortait son très attendu 100e tome, un phénomène proportionnel à la déferlante manga dans les librairies françaises. En 2021, écoutez bien, 29 millions d'exemplaires se sont vendus entre les mois de janvier et d'août. Cette économie a généré un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros sur toute l'année. Et il se vend aujourd'hui davantage de mangas que de bandes dessinées. Signe des temps, le mensuel Lire Magazine Littéraire dédie un numéro spécial au manga. Ce numéro sort aujourd'hui dans tous les kiosques. Bonjour Hélène Ferry.
Bonjour.
Vous êtes rédac-chef de Lire Magazine Littéraire et vous avez supervisé ce hors-série dont Europe 1 est le partenaire et on s'en réjouit. Numéro dont le titre est Manga, le phénomène enfin décrypté. Pourquoi ce « enfin » ?
Parce que le manga est devenu incontournable. Il l'a été déjà depuis un petit moment au sein d'une certaine caste, mais aujourd'hui, on sent que le phénomène prend de l'ampleur, notamment grâce au Pass Culture qui a boosté les ventes de manga. Donc nous, on a voulu véritablement, à un moment donné, vraiment... Prendre le train en marche, si vous voulez, et décrypter ce manga.
Pardonnez-moi, vous donnez ce chiffre incroyable. 71% des livres réservés via le Pass Culture sont des mangas.
Oui.
C'est plus que la moitié, c'est 71%. Lire, le magazine littéraire, sont deux références. C'est deux magazines qui ont fusionné. Lire, c'était une référence. Le magazine littéraire, c'était une référence. Est-ce que c'est de la littérature, le manga ?
Oui, parce que le manga, la littérature de manière générale, c'est l'art de la narration. Et le manga, c'est de la narration. C'est une histoire sur plusieurs tomes. Ça peut être une trentaine de tomes, une centaine de tomes. Mais c'est une autre manière de raconter une histoire. C'est la jonction entre le graphisme et la littérature.
Pardon de cette question de Béotien. Est-ce qu'il y a une différence entre le manga et la bande dessinée ?
Alors, manga veut dire bande dessinée en japonais. Donc, tout est culturel. Tout est affaire de culture. La bande dessinée, on va dire, a une école qui est l'école franco-belge, tandis que le manga, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'école franco-belge, mais pour les japonais.
Pour savoir si on lit un manga ou une bande dessinée, il y a un truc très simple, c'est de savoir dans quel sens on feuillette. Vous pouvez le dire, je vous laisse le dire.
C'est de droite à gauche.
Est-ce que sont les journalistes de la rédaction de Lire, du magazine littéraire, plutôt axés sur la littérature, votre magazine, qui ont rédigé ce hors-série, ou est-ce que vous avez dû faire appel à des plumes extérieures ?
On a fait appel à quelques plumes extérieures, dont Mathieu Pinon, qui est un expert en manga. Mais de manière générale, on a surtout un pool de 60 rédacteurs au sein de Lire qui avaient des affinités évidentes avec le manga. On ne le savait pas. On a profité d'une réunion de rédaction pour le découvrir et on a découvert aussi plein de choses au niveau de ces affinités. Il y en a qui sont plus sur de la dark fantasy, d'autres qui ont été davantage biberonnés à Olivier Tom, Goldorak. Donc tout est histoire aussi de pont entre générations. C'est ce qu'on a voulu dresser dans ce hors-série.
Ouais, je suis en train d'imaginer Baptiste Liger, le patron du journal, devant Olivier Tom. Vous parlez du manga habituellement ? Dans le magazine ? Dans le mensuel ?
Alors, depuis 2 ans à peu près, on a une rubrique pop culture dans laquelle on évoque notamment les mangas. Pas seulement les mangas, mais ça en fait partie. Donc oui, depuis 2 ans, on a essayé justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre le train en marche.
Alors, un peu d'histoire, le mot manga est ancien, il remonte en 1814.
Tout à fait, oui. En fait, le manga, on pourrait dire que les premiers mangas, c'était les emaki, qui sont des rouleaux illustrés, et qui montraient justement des histoires à travers ces rouleaux, un peu des sortes de papyrus, on va dire, mais japonais. Et le phénomène s'est décliné, s'est transformé au fil des siècles. Il faut savoir que le premier manga, on va dire, moderne, ouais, date de 1902.
Incroyable, il racontait quoi ?
Oh, alors là, je pourrais pas vous dire, j'étais pas encore né.
Parce que dans l'imagerie, on en parlera après, voir à tort ou à raison, ce sont des choses plutôt violentes et des choses qu'on ne voit pas dans les bandes dessinées. C'est pas Spirou, quoi, le manga.
Non, c'est pas Spirou.
Il n'y a pas que One Piece qui fait des records de vente, il y a également le rappeur Orelsan, dont le dernier album Civilization a été le plus vendu en 2021, avec 338 000 exemplaires vendus en 6 semaines seulement. Un album qui débute par un titre qui s'appelle Shonen.
J'ai fait des erreurs et j'en referai. J'espère que ce sera pas les mêmes. À quoi ça sert d'écrire des textes si je sais pas dire aux gens que je les aime? Combien d'autres raisons funèbres avant de le dire? Avant, bataille perdue d'avance, des guerres dont personne sort gagnant. À la base, c'était juste un passe-temps. Mes temps est passé, je faisais juste ça pour les faire marrer. C'était qu'en soirée, c'était des impros bien préparés. Mais quand elles buzzent, les merdes rappliquent. Les yens, les fils de polémistes. J'insiste de sortir mon premier disque. Je fais de la politique, je suis seul et triste, hein. Merci mes ex, hein. Merci pour le crash test, hein. J'apprécierais moins ce que j'ai sans votre aide, hein. Merci de m'avoir têche, hein. Je veux dire vraiment, je veux dire, j'aurais pas changé si vous m'aviez pas dit de le faire, hein. Amour moderne, tonnerre sublime, grotesque, honnête, dans mes poèmes, tout chien, je voulais qu'un peu de soleil, être le héros de mon propre shonen.
Orelsan qui va être le héros de son propre shonen. Shonen, c'est quoi? C'est une sous-catégorie du manga.
Tout à fait, le shonen, c'est le manga destiné aux adolescents, aux jeunes adultes. Généralement, les shonen racontent l'histoire d'adolescents qui vont vivre des aventures au terme desquels ils vont devenir plus forts. Et c'est aussi des mangas qui mettent beaucoup l'accent sur le collectif. On va dire que les shonen aujourd'hui les plus connus, c'est notamment Naruto, One Piece, L'Attaque des Titans.
Et il y a aussi deux autres genres, je vous laissais les décrire, le shoujo et le seinen, c'est ça ?
Tout à fait. Le shoujo, lui, c'est l'équivalent du shonen, pardon, mais pour les jeunes filles, dessiné aux jeunes filles, avec des histoires un peu plus romantique, des sentiments plus exacerbés. Par exemple, l'un des shoujo les plus connus, ça reste Nana. Mmh. Le shoujo actuel le plus connu, c'est Nana.
Et puis le troisième genre, qui est le seinen, c'est quoi ?
Alors le seinen est destiné aux adultes. Il est beaucoup plus mûr dans son approche, donc plus violent, plus sombre. C'est le cas notamment du seinen Berserk, qui est un seinen de dark fantasy extrêmement, extrêmement violent, extrêmement sombre.
Alors, on l'a entendu, le manga inspire Orelsan, mais beaucoup d'autres artistes, et aussi son complice, le rappeur Gringe, qui vous raconte qu'il achetait ses Dragon Ball en cachette. Il y a d'autres artistes qui témoignent de leur passion pour le manga dans ce numéro. Qui sont-ils et que vous disent-ils ?
Alors, on a notamment Mathias Malzieu de Dionysos.
Mais qui chante aussi sous son nom et aussi auteur de romans.
On a le fondateur de la Japan Expo. Tout ce qu'ils nous racontent, eux, c'est comment les mangas ont fondé leur culture, quels ont été les mythes fondateurs, ceux d'avant, comment ils ont été biberonnés à la culture manga. Alors c'est drôle justement de voir qu'il y a quelque chose qui trouve son fondement, c'est le Club Dorothée. Beaucoup ont été biberonnés au Club Dorothée et aujourd'hui retrouvent ce qui avait forgé leur jeunesse dans les mangas actuels.
Je n'aurais jamais pensé quand je voyais le Club Dorothée à la télé qu'un jour on allait citer cette émission dans une émission culture. C'est chose faite, on continue de parler avec vous, Hélène Ferry, des mangas, et on va entendre des sons. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de manga avec Ilan Ferry, il est le rédacteur chef de Lire Magazine Littéraire. Vous dites peut-être, si vous prenez l'émission en cours de route, que vient faire Lire et le magazine littéraire autour du manga ? Eh bien, je vous réponds, un numéro hors série manga, le phénomène enfin décrypté, car c'est très très important. Les ventes de manga ont dépassé celles de la BD en France, qui est peut-être le genre le plus vendu, et c'est une industrie culturelle qui compte énormément. On est une émission média, on ne peut pas faire cette émission sans parler de l'énorme coup de pouce qu'a joué la télévision dans la diffusion du manga en France. C'était le cas notamment avec les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z ou Ranma 1 et demi. On a fait un montage de générique, c'est pour vous.
Sans hésiter, il part en guerre pour un monde idéal. Les Chevaliers du Zodiac s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des
Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball
Vous avez reconnu le générique de Ranma 1,5, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac. C'est peut-être de la grande littérature, c'est pas forcément de la grande musique, les génériques.
Non, on peut pas dire que ce soit de la grande musique, mais au moins, ça nous fait retomber en enfance.
Exactement. Comment l'émission du Club Dorothée à laquelle vous avez été biberonné, c'est votre génération, a participé à la popularité du manga?
Bah en fait, quand Dorothée a été débauchée par TF1, elle venait d'Antenne 2, elle a été débauchée par TF1, on lui a demandé de fournir un certain nombre d'heures de programme. Donc elle ne pouvait pas les servir dans les dessins animés américains parce qu'ils étaient trop chers, donc elle a fait son shopping au Japon. Et c'est grâce à Dorothée, effectivement, qu'on a tous ces dessins animés japonais. Et ce qui est amusant, c'est, si on peut dire, c'est que justement la violence de ces dessins animés, le côté très graphique, a créé une levée de boucliers, notamment de la part de Ségolène Royal et du CSA. Du coup, la censure aidant, les fans de manga sont allés se ressourcer, sont allés à la source pour découvrir leur série préférée.
C'était Dorothée l'animatrice, mais c'est surtout ses producteurs, AB Productions, Azoulay, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, le A et le B de AB Productions. Donc les dessins animés qui passaient, qui avaient été dénoncés comme trop violents de Ségolène Royal à l'Assemblée nationale, dont je me souviens moi, vous dites qu'ils ont été édulcorés, enfin que les plus violents sont passés à la trappe.
Totalement, il y a eu des censures qui ont été demandées par le CSA et la frustration chez les fans les a poussés à aller lire les mangas originaux. Et c'est comme ça que sont nées les différentes boutiques spécialisées de mangas.
Incroyable. Donc sans le savoir, AB Productions a donné un énorme coup de pouce à la culture du manga en France, que, je le précise, j'ai découvert en vous lisant, la France est le deuxième pays consommateur au monde de manga.
Tout à fait, oui. Il y a un vrai pont culturel entre la France et le Japon, qu'on ne soupçonne pas forcément, mais qui se retrouve dans plein de choses, notamment, je pense, le côté extrêmement graphique, l'influence que le manga a pu avoir sur des jeunes auteurs, dont Tony Valente, qui a signé notre couverture.
Et ça marche dans les deux sens, que la France produit également ses propres mangas. Exemple avec le manga Radiant qui fait votre une, succès qui va jusqu'au Japon, et c'est assez rare pour signaler, ce manga va avoir droit à sa propre adaptation sur la télévision japonaise, la chaîne nationale NHK.
Sato ? Ya, omatase ! Kekkou omatase chimotta ga ? Osoi yo, Sato ! Kyou wa kossori mahou misete kureru tte yuu kara kita no ni ! Waru katta tte ba !
C'est extraordinaire, c'est du japonais, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Baptiste Collignon, notre rédac chef, cherchait une version en français, on n'a pas trouvé. Bastien, pourquoi je l'appelle Baptiste ? Bastien cherchait une version en français, il l'a pas trouvé parce que je pensais à Baptiste Ligé, voici pourquoi. Je me demande toujours pourquoi, quand j'emploie un prénom plutôt qu'un autre, les arcanes de l'inconscient, on n'a pas trouvé en français, il l'a passé en japonais. Question Ilan Ferry, de quoi parle Radiant et pourquoi ce manga a-t-il réussi à conquérir le Japon ?
Alors, l'histoire de Radiant, c'est une histoire que je préférais laisser aux lecteurs découvrir, aux aficionados. Pourquoi ça a marché ? Parce que c'est un manga sous influence. C'est une histoire qui clame son amour pour la culture japonaise, pour la culture manga, pas seulement par l'identité graphique, mais par l'histoire, par le traitement des personnages. C'est à la fois très révérencieux, mais également original. C'est véritablement, comme je le disais tout à l'heure, ce pont dressé entre les deux cultures, à la fois japonaise et française.
Ouais. Révérencieux, avez-vous dit ?
Oui.
Dans quel sens révérencieux ?
Dans le sens où... alors, c'est un peu compliqué de dire révérencieux, je dirais plutôt amoureux presque. Pour moi, si on devait faire un dictionnaire amoureux du manga, Radiant serait en première page.
D'une manière générale, est-ce que les mangas français sont du même niveau que les mangas japonais ?
C'est compliqué à dire parce que, encore une fois, il y a cette différence culturelle entre la France et le Japon. On va pas être sensible aux mêmes choses. Peut-être que les Japonais ont moins de tabous que nous. Il y a peut-être une sensibilité littéraire plus accentuée chez nous que qu'au Japon, qui, où ils mettent vraiment l'accent sur le côté graphique et exacerbé.
Il y a même des mangas pour public averti. On citait les auteurs, je vais citer Mathieu Charrier, qui a travaillé avec nous longtemps, qui était dans Culture Média, qui maintenant est du côté d'Angoulême, qui est un passionné de BD et qui signe aussi des papiers dans ce hors-série Lire, magazine littéraire. Merci d'avoir été avec nous, Ilan de Série. C'est en vente partout, dans tous les bons kiosques et même dans les mauvais kiosques, mais il n'y en a pas. Ça vaut 8,90. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci à vous.
Dans un instant, on va parler du média culturel numéro 1 des 15-34 ans. Depuis 2008, il raconte la pop culture avec des vidéos sous-titrées, très visuelles, balancées sur tous les réseaux sociaux. Vous avez reconnu Combini. Nous serons avec ses deux fondateurs, Lucie Bedet et David Creusot. Ils sont toujours aux manettes. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Lucie Bedet.
Bonjour.
Bonjour David Creusot.
Bonjour.
Ah, le micro est ici.
Pardon, bonjour.
C'est pas très grave de rater le micro quand on a un média visuel comme le vôtre. Vous êtes les fondateurs et les patrons de Combini, le média de référence chez les jeunes. Média que vous avez créé en 2008. Vous en êtes toujours à la tête. Si je suis bien informé, David, vous en êtes le président. Lucie, la vice-présidente. C'est bien ça?
C'est oui. Bien ça, ouais.
Alors, je vais faire comme vous. Je vais marketer mon interview et c'est la séquence des chiffres et des lettres. Alors, avant de rentrer dans le contenu, d'abord, Combini en chiffres, c'est quoi?
C'est moi qui dois répondre.
Qui veut?
David, vas-y, je suis nul.
Non, mais en fait, sur les chiffres, c'est toujours des gros chiffres. En fait, c'est 2 milliards en fait, par an de vidéos vues. On est aujourd'hui le premier média sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, sur Instagram. Et c'est vrai que c'est des très gros chiffres.
Je vais les donner. Ça donne le tournis. Sur votre site, il y a 10,6 millions de pages vues par mois. Facebook, 5,3 millions de femmes. Instagram, 2,3 millions de followers. Snapchat, 4,2 millions d'utilisateurs mensuels. Facebook, 1,4 millions d'abonnés. Sur TikTok, 563 000 followers. Pourquoi il n'y a pas de millions sur TikTok? Vous n'aimez pas ou vous démarrez?
Non, parce qu'en fait, TikTok, ce n'est pas forcément une plateforme de followers. En fait, on a beaucoup de... Il y a différentes parties dans TikTok et on démarre. Oui, on a démarré il y a maintenant 6 mois à peu près. Et c'est vrai que c'est une plateforme sur laquelle on a vraiment besoin de progresser, mais on progresse très très vite et c'est une plateforme qui est très inspirante en fait pour
ouais,
nous.
Pour nous, c'est on est encore en work in progress, on va dire, ouais, sur ouais. TikTok, mais par contre, c'est un endroit d'éclate quand même.
Twitter, ça vous intéresse moins? Pour quelle raison?
On n'est pas tellement allé sur Twitter, on n'a pas démarré au début, on ne s'est pas intéressé au truc, ça nous paraissait un peu, on va dire, il y avait trop la profession et pas assez le public qu'on cherchait à avoir.
Alors Lucie Bedet, puisque vous parlez du début, c'était quoi l'idée de base qui a présidé à la création de Combini?
En fait, au début, on est vraiment parti de la culture au départ. C'est-à-dire qu'on avait vraiment tout un. Mais le début, c'était il y a longtemps. Hein, c'était il y a 14 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas Facebook ou en fait, il n'y avait pas de médias sur Facebook. Mmh. Et nous, on voulait juste valoriser une culture qui n'était pas toujours visible dans les grands médias, on va dire, une culture plus jeune, des nouveaux talents, des newcomers. Et c'est vrai qu'on a vraiment travaillé à toute cette longue traîne.
Juste d'un mot, on vient de parler de manga, si je suis bien informé, Combini, c'est un mot japonais.
Exactement.
Ça veut dire, en
anglais, ça veut dire convenience store, mais ça veut dire supérette, en fait, en vrai. C'est un endroit dans lequel on trouve de tout. Et c'est vrai que ça correspond assez bien au concept de Combini, puisque finalement, c'est un mélange de beaucoup de choses, finalement.
Au départ, vous n'êtes pas de journalisme, mais vous venez du milieu de la pub. Qu'est-ce que ça change? Quelle a été votre démarche?
En fait, ce qui est intéressant dans la publicité, c'est que déjà on vient de la publicité, pas vraiment la publicité, mais plutôt du digital, de la communication digitale. Ce qui était super intéressant, ce qu'on a apporté, je crois, dans le monde des médias, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la communication, qui est l'art de la synthèse. La communication, c'est effectivement faire passer très peu de choses en très peu de mots, ou en très peu d'images. Et c'est à l'origine du concept de Combini, parce que comme vous avez pu le voir, c'est des formats qui sont tous assez courts, et on essaie de simplifier, on a un langage qui est très synthétique, et c'est, je crois, ce qu'on a apporté, on va dire, du monde de la communication dans le monde des médias.
Même vos titres de rubriques sont très synthétiques, puisque vous faites des titres en une syllabe, exemple speech. Speech, c'est simplement la parole face caméra. Il y a parfois des témoignages bouleversants, on est au-delà du divertissement, c'est le cas du témoignage de Clara Arnoux. Elle a 21 ans, elle a été victime d'un viol suite à une attaque à la seringue. Alors qu'elle rentrait d'un dîner seule, c'était un soir, dans le centre-ville de Lille. Elle est face caméra et c'est elle qui raconte.
Je vois un gars au loin qui est adossé sur un mur, je vois qu'il a une capuche, un masque. Je me suis dit, bon, Et évidemment, le mec m'accoste, le relou de base, comme je dis souvent, c'est vraiment le mec, oui, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres toute seule, mais attends, c'est dangereux le soir, je l'ai pas répondu, je l'ai pas regardé. Je l'ai entendu m'insulter, il me dit, ouais, t'es sérieux, tu réponds pas et tout machin. Je passe devant lui et je sens une présence derrière moi, mais j'ai eu le temps de la sentir même pas une demi-seconde. Il m'a direct attrapé le bras, super fort, il m'a retourné d'un coup vers lui. Et il a sorti une seringue, il m'a piqué à la fesse. J'ai pas vu la seringue, mais j'ai senti tout de suite la piqûre. Quand j'ai senti la piqûre dans ma fesse, je me suis dit, c'est la fin, quoi. Instantanément, ça a fait effet. Je commence à avoir chaud et je commence à pas me sentir bien, d'avoir une espèce de nausée. Je commence à avoir un peu trouble et tout. J'ai senti un peu mon corps partir et me lâcher, en fait. J'ai senti tout de suite me choper par le cou. Je me rappelle que j'arrivais presque plus à respirer. Je me rappelle qu'il m'a plaqué contre le mur, super fort aussi. Je sentais me toucher, je sentais m'étrangler, je sentais qu'il soulevait mon haut et je me suis dit. Faut que tu fasses quelque chose, quoi. Faut que tu bouges, mais j'arrivais pas.
Témoignage très émouvant. Je vous pose la question qu'on pose toujours quand on reçoit des reporters ici. Comment arrivez-vous à convaincre les gens de vous raconter leur histoire ?
Je pense que les gens ont besoin de parler.
C'est eux qui vous contactent ou c'est vous qui les contactez ? Vous lisez, par exemple, l'histoire de cette jeune fille dans la presse. Comment ça se fait ?
Non, là, pour le coup, on va quand même à la recherche des témoignages. Hein. C'est quand même un travail de recherche. Mais c'est vrai que la visibilité, elle est essentielle et que se battre pour la visibilité de ces témoignages et de ces, parfois de tous ces jeunes, de tous ces gens qui sont pas toujours visibles, c'est un combat qui est acquis aujourd'hui. Je pense que là, c'est leur démarche aussi, à eux.
Et je dois préciser que ce que vous avez différent avec une émission traditionnelle, on l'entend au son, ce sont tous les points de montage. Il n'y a aucun temps mort. Les petites sautes pour qu'on passe tout de suite d'une phrase à l'autre, c'est Combini, c'est votre montage. Nous, on a dupliqué, répliqué. Combien de salariés chez Combini ? Combien de journalistes ?
Alors, il y a 180 personnes aujourd'hui chez Combini. On est à peu près 80 journalistes quand on intègre en fait toute la partie production. Donc, c'est vraiment une grosse équipe, malgré tout, pour un média digital.
Quand vous faites l'interview de François Hollande, par exemple, qui vous parle de cannabis, c'est vous qui le contactez ou c'est lui qui vous contacte parce que ça fait partie de ses plans ? C'est bien pour les gens, les politiques, de passer par Combini pour toucher un public qu'ils ne toucheraient pas sinon.
Oui, c'est vrai. Alors François Hollande, on a une histoire un peu avec lui parce que c'est vrai que ça a été le premier président à passer sur un média digital chez nous lors de la dernière présidentielle. Et là, effectivement, on l'a invité à venir s'exprimer sur la question du cannabis, qui est un sujet aujourd'hui très important auprès des jeunes. Et il est venu faire cette interview Sandwich, qui est aujourd'hui un format iconique de Combini, mais c'est nous qui l'avons invité effectivement à venir. Et effectivement, il s'est plutôt lâché dans cette interview puisqu'il a évoqué sa position sur le cannabis, qui était assez ouverte en fait.
Le format Sandwich, c'est lequel, puisque vous êtes des inventeurs de formats aussi.
Alors voilà, on travaille beaucoup les formats. Le format Sandwich, c'est un format qui est un peu iconique chez nous parce que c'est un sujet où on travaille avec, on va dire, une communauté.
Ouais.
Et en fait, si t'as pas la ref, t'es out, quoi.
Ouais.
Donc le format Sandwich, en fait, ça vient de, je sais même pas si c'est absolument nécessaire de le dire, ça vient de la série How I Met Your Mother.
Ah mais si, bien sûr.
Voilà. Et en fait, on remplace le mot cannabis
par le mot
sandwich.
Voilà. Vous savez ce que ça a donné aussi, cette chose-là ? C'est pour ça que Samy de Scooby-Doo se fait d'énormes sandwichs, parce que Hanna-Barbera, les dessins animés étaient faits pour les enfants et on ne pouvait pas le montrer avec un pétard. C'est le sous-texte, je vous ai appris quelque chose.
Ah ouais,
le sous-texte de Scooby-Doo, c'est que Samy est un gros fumeur
de sandwich.
Voilà.
D'accord.
Voilà,
en tout cas, nous, c'était important quand même qu'on travaille vraiment le langage de la pop culture.
On a compris. Je vous interromps parce qu'on est obligé de marquer une courte pause.
D'accord.
Et comme dirait l'autre, si t'as pas la ref, t'es out.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Lucie Bedet et David Creusot, nous parlons de Combini, ce média pour les jeunes, mais pas seulement. Quand on fait 2,1 milliards de vues, il n'y a pas que des jeunes qui vous regardent, mais quand même beaucoup. Autre séquence qui a fait votre réputation sur Combini, Fast and Curious. Racontez le principe.
Alors, Fast and Curious, c'est vraiment un principe qui est super facile à comprendre. C'est Fast and Curious. C'est-à-dire qu'en fait, on pose des questions. C'est une question à double entrée. Donc, je ne sais pas.
C'est une sorte de tu préfères.
Voilà, c'est ça, exactement.
Le truc, c'est qu'en fait, on a travaillé à un moment et c'était vraiment le format qui nous a aidé à comprendre comment on allait réussir à émerger sur les réseaux sociaux. C'est un format assez vieux. Hein, je crois 2012 ou 2013, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'on a travaillé le truc un peu épileptique.
Et c'est très, très nerveux.
On a travaillé le rythme, en fait.
C'est Steve Jobs ou Blow Job, par exemple. Voilà.
J'ai bien compris, on ne va pas traduire. Jean Dujardin, Angèle, Omar Sy, François Cluzet sont prêtés à l'exercice, ou encore Jean-Claude Van Damme. La question, c'était Adam ou Ève. Voici sa réponse. Alors, d'en face, il y a rapide, mais Jean-Claude, il n'a pas bien compris ça.
Je préfère être la personne qui les a créés. La définition de Dieu, pour moi, est une science. C'est trop long à expliquer, mais c'est quoi la définition de Dieu de ton côté à toi ? C'est ça le problème. Donc il faut aller vers l'histoire, la religion. Derrière la religion, il y a la science. Il y avait des civilisations 3500 années avant Jésus-Christ qui existaient, comme l'Empire sumérien. Ils avaient gravé des choses sur leurs murs, comme le système solaire et l'astrologie, déjà avant que les Chinois l'ont inventé. Donc, quand même, l'histoire humaine a un passé énorme. Donc, on appelle ça la science biologique historienne. Et ça m'intéresse énormément, l'histoire de l'homme.
Voilà, Fast and Curious, et Van Damme, il fait 45 secondes.
Voilà,
ça
c'est
vous fait rire
slow,
encore
slow
de l'entendre.
Ouais.
Saint Format, ça a été imité ? Ça a été copié, ça vous énerve ?
Ça a été parodié aussi, ça par contre ça nous plaît.
Ça c'est joyeux d'être parodié.
On a justement reçu des slow, je sais pas quoi. Ouais.
Non, après le fait d'être copié, c'est pas vraiment, je pense, un stress pour nous. Au contraire, je crois qu'on a un peu contribué à écrire une page de l'internet, que d'autres s'en inspirent, moi je trouve ça très bien.
Mais c'est un petit peu rageant, moi je viens du Journal Actuel, Bezos faisait piquer des talents, il n'était pas content, je vous en parle, parce que vous aussi vous faites piquer des talents. Ouais. On l'a annoncé ici en début de semaine, le nouveau patron de la radio Move, Mathieu Marmouget, c'était votre ancien directeur général, et Radio France l'a pris justement pour rajeunir son audience, parce qu'avec Combini, il a appris à parler aux jeunes, ça vous met dans quel état ?
Bah déjà, Mathieu, c'est un super pote, donc non, il n'y a pas de problème de se faire piquer les gens. Moi, je suis très content pour lui, en fait. En vrai.
Ah bon, d'accord. De la même
et
façon...
Et puis si on peut contribuer à avoir un impact sur d'autres médias...
Ah bah, vous avez un impact sur d'autres médias. Vous avez fait un joli coup il y a quelques années avec la venue d'Hugo Clément quand il avait quitté l'émission Quotidien, et finalement, il est parti sur France 2. Pourquoi vous n'avez pas réussi à le garder, Hugo Clément ?
Déjà, il est resté quand même presque un an et demi avec nous, et c'était une super
J'adore
belle aventure.
J'adore votre temps. Pour moi, un an et demi, c'est très très peu. Pour vous, c'est du temps long.
Et puis, c'est incroyable. Nous, il est venu, on avait vraiment un enjeu, enfin un double enjeu, mais un enjeu fort quand même. C'était, on sortait des élections, on avait lancé pour le sujet des élections, parce qu'on voulait inviter les jeunes à voter, on avait lancé le format speech, qui était à l'époque toute une écriture de autour des élections. Et c'est vrai qu'on a voulu accélérer sur la news, et que Hugo est venu pour ça.
Après,
et qu'il nous
juste
a...
pour rajouter un point sur ce sujet, en fait, je crois que Combini, on a su intégrer beaucoup de talents chez nous et les développer. Ça fait partie aujourd'hui de notre ADN. Bezos a fait ça très bien pendant des années. Je crois que nous, on aime bien avoir des gens, les aider à s'épanouir, et qu'après, s'ils vont vivre ailleurs, c'est pas très grave.
Et puis, le postulat de départ a un peu évolué, même beaucoup. C'est que vous avez démarré en lançant des formats courts, quelques minutes, pour attirer les jeunes. Et maintenant, vous mettez peu à peu au format long.
Oui.
Pour quelle raison ?
Déjà, il y a plusieurs plateformes et plusieurs consommations sur les plateformes. C'est une plateforme comme YouTube, par exemple. C'est une plateforme sur laquelle on peut passer plus de temps. Donc, on s'adapte, en fait, à ces mouvements. Et puis... contrairement peut-être à la télévision, nous on n'a pas de format de temps, on fait un peu ce qu'on veut, donc en fait en fonction des sujets, si on a envie de le décliner sur, si on a besoin de plus de temps pour l'exprimer, on peut le faire, il n'y a pas de contrainte de temps.
On pose toutes les questions ici, c'est quoi votre business model, comment vous gagnez de l'argent, puisque quand on regarde Combini, c'est gratuit.
Ben en fait, c'est la publicité, c'est comme tous les médias gratuits. Donc, voilà, c'est de la publicité.
Et vous faites du brand content ?
Oui, c'est ça, exactement.
Des vidéos qu'on tourne pour les marques. Vous avez refusé, ai-je lu, l'offre d'achat de votre concurrent. Pour quelle raison ?
Alors, c'est une fake news.
C'est vrai ?
Oui.
Vous n'avez jamais refusé. Est-ce que c'est une fake news qu'en 2019, vous avez eu très très chaud, vous avez quadruplé vos pertes qui ont atteint 19,25 millions d'euros ? Ma question est-ce que ça c'est vrai ? Et est-ce que désormais vous êtes devenu rentable ?
Alors déjà ça aussi, mais moi on s'est déjà exprimé avec Lucie sur ce sujet, ça aussi c'était une fake news.
C'est dans Capital, qui est un journal très sérieux, journal économique, c'est dans le Capital du 11 mars.
Oui, bien sûr, mais on est revenu sur cette information à plusieurs reprises. Non, c'est pas vrai, en fait, la manière dont c'est tourné, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur ce sujet... des gens qui faisaient leur carton chez Combini. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Je crois que plus on est visible, plus on est attaqué. Aujourd'hui, Combini, c'est une société qui cartonne. On a passé une année extraordinaire, une des meilleures qu'on a jamais faites jusqu'à maintenant. On est 180, voilà, on continue d'embaucher des gens. Je pense que la dynamique, elle est extrêmement favorable. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans une phase de maturité. Et voilà, on continue à se développer et on a beaucoup
la
de projets pour l'avenir.
La phase d'investissement est derrière nous et la phase de maturité arrive. Mais c'est vrai que ça a été une année assez chouette quand même pour Combini. Et je pense que tout le monde peut le dire chez nous. Et...
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. David Creusot, Lucie Bedet. Je rappelle Combini, le média référence chez les jeunes que vous avez créé il y a très très longtemps. C'était en 2008, c'est dingue. Oui. On était encore en France, mais non, je plaisante. C'était l'année de l'arrivée de l'iPhone. Culture Média continue. Après les infos de 10h, vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Ce matin, il nous a pétri un sujet bien cuit par les médias hier, le prix de la baguette de pain dans les supermarchés Leclerc. Notre invité Grand Corps Malade, on va parler de sa tournée et de son album Mesdames. C'est une réédition, c'est un carton énorme. Et puis dans les indispensables, on va parler littérature avec Nicolas Carreau et Olivier Pouls. Je dis pas ce qu'il va faire, ce que je veux faire la surprise à Grand Corps Malade. L'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebret en fin d'émission. À tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.